Bonjour. Effectivement, je m'appelle David Rosset. J'ai la chance depuis maintenant 5 ans d'être pasteur dans cette église. Et j'ai deux collègues, Nathalie Perrault, Myriam Maté, qui, je crois, soit dans la salle, soit s'occupe des enfants ce matin. Et puis, c'est vrai que depuis quelques dimanches, 6 déjà, nous sommes dans une thématique autour de la croissance. La croissance sous différents aspects, la croissance notamment de l'Église, de notre communauté. Et puis, pour nous mettre dans le coup de ce matin, je vous invite à regarder cette vidéo que voici, que voilà. Effectivement, ça pousse. Je trouve cette vidéo assez fascinante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos du même type, mais c'est des vidéos où il y a une caméra qui est posée à un endroit, puis ensuite le monteur fait un accéléré de ce qui se passe. Et puis j'ai choisi ce titre, effectivement, en regardant cette vidéo, aussi en se laissant inspirer par différents textes de la parole qu'on va méditer après, parce que j'ai trouvé qu'il y a une force qui est inarrêtable dans cette croissance. Je ne sais pas si ça vous a frappé la même chose que moi, de voir ces fleurs se déployer, ces tiges pousser, ces feuilles sortir de leurs bourgeons. On sent que ça pousse et que cette force, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il y a une vigueur extraordinaire, c'est la vigueur de la vie. Cette vie que Dieu donne dans une toute petite graine et qui peut se déployer avec une force phénoménale. Ça fait des dizaines d'années que Monsanto essaye de faire la même chose, ben ils ne vont jamais réussir. Parce qu'ils n'ont pas trouvé, puis j'espère qu'ils ne trouveront jamais, d'ailleurs j'y crois qu'ils ne vont jamais trouver, cette vigueur, cette force qui est là et qui déplace finalement tout ce qui peut être sur le chemin. Je ne sais pas si vous avez vu quand il y avait toutes les graines qui étaient là dans la terre, on voit que quand ça pousse, ça fait aussi bouger certaines choses. Hein. Ça fait bouger des mottes de terre, ça fait bouger des cailloux, ça prend de place. Il y a des choses qui évoluent, ce n'est pas statique et ce n'est pas stable d'une certaine façon, parce que les choses évoluent. Alors, je ne suis de loin pas le spécialiste dans cette salle pour vous parler de la croissance des plantes, mais je vais essayer de poser un regard, je dirais, de ce que Dieu peut penser sur nous, de ce que Dieu peut penser aussi sur notre communauté, parce que c'est vraiment, je pense, une prédication communautaire que j'ai envie de faire ce matin, parce que nous sommes effectivement dans cette thématique de la croissance, nous vivons aussi une phase de croissance en Église, et je crois que c'est important de pouvoir regarder comment Dieu peut considérer la croissance dans sa parole. Et il s'avère qu'il emploie, à travers des histoires que Jésus raconte à ses disciples, souvent des images qui sont tirées de la nature, comme on vient de le voir. Il y a même un chapitre entier dans l'évangile de Matthieu, qui est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de notre Bible, qui nous parle de la croissance à l'aide de différentes images qu'on appelle aussi des paraboles. Donc c'est Jésus qui raconte différentes histoires qui nous parlent de la croissance et notamment la croissance des plantes. Il commence par nous raconter une histoire où il y a un homme, un semeur qui sort avec des graines dans la main et puis il les lance un peu partout où il marche. Et puis ces graines tombent dans différents terrains et ils tombent notamment dans un terrain favorable à la croissance. Et ensuite cette plante ou ces graines deviennent des plantes, poussent et porte du fruit. Ensuite, il y a une autre histoire qui nous parle toujours d'un semeur ou d'un agriculteur qui va à travers les champs, qui sème ses graines, mais qui se rend compte qu'en même temps que le bon grain croît, il y a aussi la mauvaise herbe qui pousse en même temps. C'est la parabole que l'on appelle du bon grain ou de l'ivraie. Et finalement, dans ce chapitre 13 au verset 31 et 33, il nous donne ces deux petites histoires que voici. Jésus donc leur propose encore cette autre parabole. Il leur dit, voici à quoi le règne des cieux est semblable. Le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde, toute petite, qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient même un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Une deuxième toute petite histoire, Il leur dit cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas ou 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout est levé. Comme pour cette vidéo que nous venons de voir, même si c'est un peu moins visible dans ce texte biblique, mais je crois qu'avec l'illustration qu'on a eue avant, on se rend compte que dans ces petites graines, dans ce levain, il y a une force qui nous dépasse, une force qui pousse et qui prend du volume, qui prend de l'espace, si bien qu'à un certain moment, il y a même les oiseaux du ciel qui peuvent venir dans l'arbre qui est en train de pousser. Et si bien qu'à un certain moment, la personne qui est en train de faire du pain, à l'époque c'était certainement une dame, maintenant tout le monde fait du pain, on peut se dire qu'il y a là de quoi nourrir un plus grand nombre parce que cette place a été prise et elle peut être redonnée. Il y a du fruit qui est là et qui peut être redonné. Alors j'essaie de m'intéresser un petit peu à 3 conditions de croissance telles que la Bible le voit. Et la première de ces conditions de croissance, c'est la dépendance de Dieu. Comme on l'a dit, cette vie qui est là, contenue dans la graine en minuscule, elle vient de Dieu et elle est déployée par la force que Dieu met dans cette graine. C'est une dépendance totale finalement. Parce qu'on peut essayer par toutes les techniques d'améliorer, on peut essayer de bien favoriser cette croissance, mais à la toute base, il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est cette dépendance de Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée la vie, c'est Dieu qui la met dans cette graine, c'est Dieu qui donne toutes les informations pour qu'à un moment, cette graine puisse s'épanouir, puisse grandir. Elle a déjà tout en elle. Et puis, dans une société technicienne comme la nôtre, où on pense qu'on va arriver à tout grâce au progrès technique, c'est important, notamment à l'Église, de pouvoir se rappeler, de retomber les pieds sur terre, puis de se dire qu'il y a une dépendance de Dieu qui est là, qu'on le veuille ou non. Une dépendance de la vie que Dieu met dans cette graine, que Dieu met en nous. Et malgré tous nos moyens techniques possibles et imaginables, jamais, jamais on va pouvoir égaler cette puissance-là, cette puissance qui pousse et qui fait pousser ces graines. Ça paraît évident, et pourtant, ce n'est pas toujours très clair dans notre monde, je le trouve. C'est exactement cette même logique qui est à l'œuvre pour le royaume des cieux. Ou pour l'Église, on peut essayer de faire des parallèles à ce niveau-là. C'est de se dire que cette même force que Dieu met dans la plante, Jésus la transmet à ses disciples pour leur parler de leur mission, c'est-à-dire être témoin du royaume des cieux. Puis si nous, en tant qu'Église et en tant que disciples, on n'est pas témoin du royaume des cieux, je ne sais pas ce qu'on est. Comme nous l'a dit Marie avant, il fallait peut-être choisir autre chose. On a ce dépôt en nous, et c'est ce même dépôt qui a les caractéristiques de ces graines que nous venons de parler. C'est fort comme comparaison, hein, si on y pense vraiment. C'est-à-dire que le dépôt qui nous est donné dans nos cœurs en tant que témoins, ces graines du royaume de Dieu que nous avons en nous, que Jésus nous a donné, elles ont la même force, la même vigueur que ces graines et ces plantes qui poussent comme dans la vidéo. Elles ont la même force, la même vigueur que ces plantes que nous avons vues avant en image. Et puis je vous ai mis ce verset de 1 Corinthiens 3 qui pose bien les nuances qu'on peut mettre entre ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'êtres humains et ce que Dieu finalement fait. Puis je trouve que Paul, avec son côté pratique et puis son côté ouverture à Dieu et à son action, il résume extrêmement bien les choses de manière très concrète en quelques versets. Ce que vous pouvez lire là, c'est peut-être un peu petit, dans 1 Corinthiens 3. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Apollos, c'était un autre témoin du Christ à Corinthe. Qu'est-ce que Paul, donc le grand apôtre qui a écrit plusieurs lettres ? Qu'est-ce que nous, finalement ? Comme nous l'avons chanté, des serviteurs, par l'entremise desquels certaines personnes, donc d'autres, en l'occurrence à Corinthe, sont venues à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Donc, de nouveau, dépendance totale de Dieu, mais pas inaction de la part des serviteurs. Moi, j'ai peut-être planté, ça c'est Paul qui dit, Apollo, ça peut être arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître, parce que cette vie qui est contenue dans cette graine, comme dans ces graines du royaume, seul Dieu peut les faire croître. Ainsi, C'est ce qui résume là. Ce n'est pas celui qui plante qui importe, ce n'est ni celui qui arrose qui importe, mais Dieu qui fait croître. Trois petits versets qui en disent beaucoup sur comment mener une église, comment vivre notre vie en communauté. Peut-être quelqu'un qui arrose, peut-être quelqu'un qui plante, peut-être quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, mais au final, dépendance à 100% de Dieu, malgré toutes nos compétences. 100% de dépendance malgré tout ce qu'on peut essayer de faire nous-mêmes, techniquement, avec toute notre bonne volonté, qui n'est pas oblitérée par l'action de Dieu, mais qui est remise à sa juste place. Dépendance de Dieu, c'est la première condition de la croissance. Nous sommes là dans un état de dépendance totale que nous reconnaissons. La deuxième caractéristique d'une croissance, c'est que la plante, elle ne se pose pas autant de questions que nous. La plante, elle ne se pose pas de questions de savoir si elle va grandir ou pas, et quelles conséquences ça aura sur elle. Nous, on peut s'en poser, parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est bien, machin, on gère, on se demande ce qui se passe. On peut avoir toutes sortes de questions là autour. La plante, finalement, elle accepte son destin qui croît sans autre, parce que ça fait partie de sa nature même. Et je crois que, de nouveau, ce parallèle de voir la graine comme le royaume des graines du royaume des cieux, pour nous, ça nous interpelle aussi parce que ça doit se dire, cette croissance que Dieu veut, que Dieu a mis en nous à travers ces graines du royaume, finalement, notre rôle, c'est de les accepter, quelles qu'en soient les conséquences. Des conséquences qui peuvent peut-être nous pousser en avant, des conséquences qui peuvent peut-être nous faire faire des choses que nous n'avons pas imaginées, des conséquences qui peuvent peut-être nous dire, on doit prendre des voies que nous n'aurions pas choisies, mais qui nous coûtent, parce qu'il y a cette force qui vient de Dieu, et cette croissance qui vient de Dieu. Acceptation de la croissance, ça fait allusion à ce que je vous avais partagé avec la prédication de Pierre à la Pentecôte, où, en conclusion de cette prédication, il était dit « Le Seigneur ajoutait à l'Église encore tant et tant de personnes, avec tous les problèmes organisationnels que ça impliquait. » Et pourtant, les disciples n'ont eu d'autre choix que d'accepter cette croissance et de se dire « On va dans cette direction, car c'est cette même puissance de Dieu qui est contenue dans ce que Pierre a pu prêcher. » Et la troisième chose que j'aimerais souligner peut-être un peu plus en détail ce matin, être une bonne terre. Et là, je suis tombé sur un petit paradoxe, c'est que cette parabole ou cette histoire du semeur qui s'en va semer puis qui sème dans quatre terrains différents, trois sont peu propices à la croissance et un, la bonne terre, est très propice à la croissance. Je ne sais pas si vous êtes un peu du même sentiment que moi, mais je trouve qu'on a un peu de la peine à parler du terrain propice à la croissance. On est assez fort pour se dire, ben voilà les terrains un peu plus négatifs, voilà ce à quoi il faut faire attention et ne pas tomber dans ces travers-là. Mais ce matin, j'aimerais changer un peu le curseur puis parler de la bonne terre. Malgré le risque d'orgueil que ça peut comprendre, peut-être aussi un risque de un peu, se considérer comme étant une bonne terre sans que ce soit vraiment le cas. Mais je prends ce risque consciemment puis je me dis, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne terre ? Et pour commencer, je nous laisse cette citation que j'ai tirée d'un commentaire sur l'évangile de Matthieu, écrit par un théologien que j'aime bien, américain, qui s'appelle Stanley Hauerwas, puis qui dit ceci par rapport à ces paraboles de Matthieu 13. « Les disciples sont la bonne terre dans laquelle les graines du royaume ont été semées. » Je le répète, « Les disciples sont la bonne terre dans laquelle les graines du royaume ont été semées. » Pourquoi ? Car nous savons qu'ils sont la bonne terre, petite faute de frappe, car s'ils ne l'étaient pas, nous ne serions pas l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous arrivons, en tant qu'individus et en tant que communauté, à nous considérer comme de la bonne terre ? Ou est-ce que ça nous fait un peu peur parce qu'on se dit qu'on est en train de trop se mettre en avant ? Est-ce qu'on arrive à se dire, oui, l'Église de la Fraternelle est une bonne terre pour les personnes qui viendraient de notre ville, qui viendrait en étant intéressé de voir ce qui se passe dans une église. Est-ce qu'on arrive à assumer ce statut ? Oui, David Rosset, je peux être de la bonne terre pour que les graines du royaume poussent en moi. Ce n'est pas si évident que ça. Hein. On s'expose. On se dit qu'on n'est quand même pas si mal. On se dit qu'on a reçu quelque chose peut-être que les autres n'ont pas. C'est pas si évident que ça, et pourtant, cette raison qui nous est donnée de la part de ce théologien, nous savons qu'il soit la bonne terre, car s'il ne l'était pas, nous ne serions pas l'Église de Jésus-Christ. Elle est assez fondamentale, parce que si les disciples s'étaient cachés, si les disciples n'avaient pas assumé cette mission, nous, on serait tout simplement plus là. On serait plus là pour pouvoir témoigner de ce que Jésus-Christ fait dans nos vies. On n'aurait plus ce privilège de pouvoir lui appartenir de la manière dont lui appartenons maintenant. Il compte sur les Apollos, il compte sur des Paul, il compte sur des Pierre, des Jean, mais il compte aussi sur toi et moi. Il compte aussi sur nous en tant que disciples de Christ. Les disciples sont la bonne terre. On n'est pas toujours la terre où il y a des ronces, on n'est pas toujours la terre où il y a des cailloux, on n'est pas toujours la terre où les oiseaux viennent se servir en picorant. Nous sommes aussi la bonne terre capable de porter du fruit. Ça implique une certaine transmission de qui nous sommes, ça implique une certaine fidélité, et ça implique aussi de voir comment cette transmission se fait de génération en génération. Et puis là, j'ai trouvé normalement... Ah mince, il n'y a pas. Dommage. Un petit problème technique. Mais j'avais trouvé une magnifique illustration, puis j'ai pensé à Guy de Bourbon, notre président de ce matin, une magnifique illustration de différentes images qui montraient des exemples de permaculture. Alors lui, il a fait plusieurs cours de permaculture, il est plus au point que moi. Mais moi, j'avais fait simplement les images et je trouvais que c'était très intéressant de voir comment une bonne terre, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle avait plusieurs couches différentes qui permettaient la croissance. Ce n'était pas une seule couche uniforme, il y a plusieurs couches différentes qui permettent la croissance. Il faut un peu des cailloux, il faut un peu des feuilles, il faut... Tu me diras la suite, mais il faut différentes choses pour que la bonne terre soit véritablement efficace. Et puis, j'ai fait un peu le parallèle avec notre communauté, de se dire que nous avons une chance assez extraordinaire de vivre déjà cette forme de millefeuille de bonne terre qui est là. Parce que plusieurs personnes différentes et de générations différentes prennent déjà leur place dans notre communauté. C'est une réalité. Et je voyais ces différentes couches de pierres, de cailloux, de feuilles, d'humus, de tout ce qu'on veut. Puis je voyais en même temps, en parallèle, notre communauté avec différents visages qui pouvaient être sur ces différentes couches. Différents visages qui parlent de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, quels que soient nos âges, et qui, ensemble, peuvent favoriser la croissance parce que nous sommes aussi, peut-être, en tant que communauté, sans tomber dans l'orgueil, cette bonne terre. Et comme pour la bonne terre ou la permaculture, où différentes couches prennent leur place, je crois aussi que de manière communautaire, on est appelé à chacun prendre notre place là où le Seigneur veut nous placer, justement. Parce que moi, je n'arrive pas à faire le chef d'orchestre pour placer tout le monde et puis se dire, toi, tu vas là comme un plan de table dans un mariage. Impossible. Et puis, je n'ai pas envie de le faire non plus parce que je crois fondamentalement que Dieu nous appelle chacun à prendre notre place là où lui, il nous veut, pas là où le pasteur vous veut, là où lui, il nous veut. Et puis, je suis particulièrement aussi impressionné dans la phase qu'on est en train de vivre, dans cette idée de transmission, comme les disciples ont accepté d'être bonne terre, ils nous ont transmis finalement le flambeau jusqu'à maintenant, la responsabilité qui nous incombe, mais déjà depuis plusieurs dizaines d'années à la frate, hein, c'est pas nouveau, mais qui prend encore de la vigueur maintenant, c'est de voir le nombre d'enfants qui nous sont confiés chaque dimanche matin. On les voit peut-être pas tellement qu'on est réunis dans la salle de culte, mais actuellement, au moment où je vous parle, il y en a plusieurs dizaines qui sont en train d'être dans notre bâtiment, en train de recevoir aussi ces graines du royaume qui, nous l'espérons, vont pousser dans chacune de ces personnalités. Donc on a cette responsabilité-là qui existe déjà à l'heure actuelle. Finalement, cette bonne terre, c'est une perspective à long terme. Puis, quand on était ce matin dans la petite salle pour prier pour notre culte, il y a quelqu'un, que je n'aimerais pas, qui m'a dit, c'est assez interpellant ta prédication, parce que ce titre, ça pousse, ça nous encourage à voir les choses à long terme. Il n'y a pas tout qui va pouvoir passer. Il voyait l'image qui était choisie par Damien pour illustrer. On voit la petite plante et le grand arbre. Et entre ce moment A et ce moment B, il peut s'écouler plusieurs dizaines d'années. Et pourtant, cette croissance se vit. J'ai un peu triché avec le film parce que c'était en accéléré, puis ça, c'est un défaut de notre époque. On veut des croissances accélérées, on veut des croissances qui soient tout de suite visibles, on veut des croissances qui en jettent un petit peu, comme ce film nous l'a bien montré. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça, on ne peut pas travailler en accéléré, même si on aimerait bien. Il y a une échéance entre ce point A de la petite plante et ce grand arbre. Et cette échéance, elle peut être longue, on est dans du travail à long terme. Et je crois que cette bonne terre que nous avons la chance de vivre en tant que communauté, c'est une grâce de la part du Seigneur, elle est là aussi pour le long terme, pour que nous puissions accueillir ces graines que Dieu nous donne. Ces graines qui sont là, qui viennent peut-être de la rue, ces graines qui sont peut-être parmi le ministère auprès des enfants, ces graines qui sont aussi finalement nous et la place que nous prenons en tant que témoins et disciples du Christ. Et là, pendant ce temps à long terme, cette personne m'a encore dit, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que chrétiens ? Eh bien, on se serre les coudes et on y va tous ensemble. On se serre les coudes et on essaye d'être chacune, chacun, à notre place pour cette bonne terre qui permet la croissance. Je crois que c'est plutôt un privilège que nous sommes en train de vivre actuellement, cette phase de croissance. C'est un privilège de pouvoir se dire qu'on a ce rôle-là qui nous est confié par notre Dieu. Et je prie, et j'espère que vous puissiez prier avec moi, on nous encourage beaucoup à prier ce matin, pour que, en tant que communauté, on puisse conserver cette unité de corps, cette unité d'esprit, pour être cette bonne terre que le Seigneur attend de nous, pour cette bonne terre que le Seigneur attend de son Église. Alors je nous invite à prier. Notre Père, merci pour cette phase que tu nous donnes de vivre, d'Église actuellement. Merci pour cette perspective que tu nous donnes de croissance de ton royaume. Merci pour ces graines que tu sèmes de manière généreuse. Merci pour ces graines que tu as semées dans le passé qui nous permettent d'être qui nous sommes aujourd'hui, en ce 13 octobre 2019. Merci pour toute cette nuée de témoins qui a accepté son rôle d'être bonne terre, individuellement et en communauté. Seigneur, fais-nous la grâce ici au cœur de la ville, de pouvoir assumer ce rôle de bonne terre en tant qu'individu et en tant que communauté. Fais-nous la grâce de trouver chacune, chacun notre place dans cette bonne terre qui a besoin de plusieurs couches, qui a besoin de plusieurs caractéristiques pour que ces graines puissent pousser. Seigneur, aide-nous, dirige-nous et nous comptons sur toi dans cette dépendance que nous voulons te dire et te redire encore. Merci parce que tu nous confies cette mission. Merci parce que tu nous en crois capables. Et Seigneur, viens à notre secours. Amen.